Nous prions. Notre Dieu, garde-nous disponibles pour tout ce que l'Esprit veut nous suggérer. Que ton Esprit nous ouvre à ta parole, qu'il y élargisse notre âme et notre intelligence, qu'il inspire nos initiatives et anime notre action. Ainsi, nous pourrons accomplir, chacun et ensemble, la tâche que tu nous confies. Amen. Et comme indiqué sur les feuilles de culte que vous avez trouvées dans les recueils de cantiques, nous méditerons aujourd'hui à partir du texte du livre de la Genèse au chapitre 3, les versets 16 à 21. Vous avez aussi le texte sur la feuille. Il s'agit de la version de la Nouvelle Bible Second à quelques détails près. À la femme, il dit, l'Éternel dit, « Je multiplierai ta peine et tes grossesses, et c'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir te portera vers ton homme, et lui, il te dominera. » À l'homme, il dit, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. » C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, vivante, car elle est devenue la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Quelle postérité extraordinaire a eu cette antique expression, qui est pourtant unique dans les Écritures, on ne la trouve que là. Mais chaque génération y a entendu un écho de sa propre expérience et l'a transmis à la génération suivante, la comprenant souvent comme une condamnation, voire même une malédiction de l'humain en général, parce que quand même les femmes travaillent autant que les hommes. Lesquelles femmes ont quand même dû subir, en plus, comme un châtiment pour la supposée faute d'Ève, la peine et la douleur des grossesses, sans parler du risque de mort jusqu'à tout récemment au regard de l'histoire. De quoi se méfier de ce texte de Genèse ? Et oui, cela pourrait l'être s'il avait effectivement rendu compte d'une malédiction lancée sur le travail et sur l'humain, hommes et femmes, s'il avait effectivement traduit une condamnation divine vouant à la peine la condition humaine. Mais ce n'est pas le cas. Reprenons un peu. Dans l'Éden, le serpent a trompé la femme, qui, malgré l'interdit divin, a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, et en a donné à l'homme, qui l'a mangé aussi. Le serpent ayant réussi à faire croire que l'Éternel, jaloux de sa divinité, visait seulement à en priver l'homme et la femme. Cependant, ceux-ci, ayant mangé le fruit, ne sont pas du tout devenus comme des dieux. ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience de leur différence et de leur fragilité. Et si ce n'est pas divin, cela est très humain. C'est le début de l'humain. Et c'est certes déstabilisant quand on s'est rêvé divin. Dans la honte et la peur, l'homme et la femme entendent la parole de l'Éternel, d'abord sur le serpent déclaré maudit, en conflit permanent avec la femme et sa descendance, destinée à ramper sur le sol et à manger la poussière. Alors il ne s'agit pas, bien sûr, d'une considération au sujet des couleuvres et autres reptiles. Dans ce mythe de la Genèse, le serpent représente la figure de la convoitise, ce vouloir pour soi, qui toujours, inévitablement, s'associe au mensonge, à la manipulation et à la domination d'autrui. La convoitise, elle, est effectivement une malédiction qui tord les êtres et leurs relations. Elle est même une malédiction pour le sol, pour la terre, exploitée, mais surtout surexploitée par convoitise et abîmée. Mais la malédiction dite par l'Éternel dans ce texte est-elle une décision divine et punitive, ou alors la constatation des difficultés et du malheur provoqués par la convoitise? La convoitise altère, elle stérilise les vivants, elle les dessèche vers la poussière. Oui, la convoitise entraîne du côté de la mort. Elle provoque le contraire de la bénédiction qui est un élan de vie et d'encouragement pour les vivants. Dans ce texte, ni la femme ni l'homme ne sont maudits, mais leur relation est imprégnée de convoitise, alors elle n'est pas harmonieuse. Et le vis-à-vis voulu par l'Éternel au chapitre précédent, l'Éternel Dieu veut faire un vis-à-vis pour l'humain, eh bien ce vis-à-vis est devenu relation de domination et de possession. L'homme est objet du désir de la femme et la femme soumise à l'emprise de son homme. Leur travail sera pénible. Le travail à la fois comme enfantement et comme culture. Et vous savez que le mot travail sert aussi bien à l'enfantement qu'à la culture du sol, qu'à tout autre travail qu'on réalise et même au-delà. Il ne s'agit pas, en ce qui concerne la parole dite à la femme, de l'aspect gynécologique et physiologique de la grossesse et de l'accouchement, ni même du nombre des grossesses des femmes. La multiplication a le sens d'une aggravation qui rend pénible la mise au monde, mais du point de vue de la relation de la mère à son enfant. C'est là que la convoitise agit. Une relation marquée à son tour de possession, de domination. Au chapitre suivant, Ève ne dira-t-elle pas à la naissance de Caïn qu'elle a acquis un enfant et avec Dieu de surcroît, exit Adam. Quant au travail de la terre, il n'est pas nouveau. Dans l'Éden, l'homme et la femme travaillent dans le jardin. Ils le cultivent et le gardent, c'est leur mission. Mais à cause de la convoitise, la pénibilité du travail pèse sur l'humain au-delà de l'effort physique du travail de la terre, labour, semaille, récolte. Ce dont il est question ici, c'est encore la manière de considérer le travail. Pas seulement celui de la terre, mais tout travail. Est-ce seulement pour la rétribution ou le salaire qui en est retiré que nous travaillons? Le travail est-il le déterminant principal de la valeur de l'humain qui travaille? Sommes-nous définis par notre travail? S'il en est ainsi, alors la peine est grande, le malheur est grand. De plus, travail de l'enfantement au travail de la terre, nous pouvons élargir, rassembler hommes et femmes, car les hommes enfantent aussi et les femmes travaillent aussi. Les unes et les autres mettent au monde d'autres humains par un travail, même ponctuel, de soins, d'accompagnement, de soutien, d'enseignement. Les unes et les autres accomplissent des tâches professionnelles, familiales et même parfois bénévoles. Le mythe de la Genèse fait comprendre que la convoitise altère le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Même si l'homme et la femme ont mangé le fruit de l'arbre, ils ne savent plus reconnaître ce qui est bonheur et malheur, ce qui va vers la vie et ce qui va vers la mort, ce qui rend une relation harmonieuse et ce qui la fait tomber dans l'emprise de l'un sur l'autre. La convoitise a tout gâché. La convoitise qui fait placer soi-même au centre de toute considération, qui entraîne l'humain dans un point de vue absolument personnel, un « pour moi » qui fait de « moi » la mesure de ce que je fais. Convoiter la place de Dieu, du moins ce qu'on imagine être la place de Dieu, c'est-à-dire une toute-puissance jalouse, c'était le mensonge du serpent à la femme. Convoiter la place de Dieu, c'est se retrouver à vivre sans Dieu, comme s'il n'y avait pas de Dieu origine et sens qui rende la vie vivante et animée, inspirée. Alors, on met au monde pour soi, on travaille pour soi, et la peine est là, redoublée, aggravée, pour la femme comme pour l'homme. Peine de tout travail d'enfantement, peine de tout travail de la terre ou autre. Alors faut-il gémir, se lamenter de cette condition humaine aussi pénible? Faut-il se résigner à la convoitise, au mensonge, à la domination, à la violence qui en découle, au non-sens, au malheur? Mais non, bien sûr que non, puisqu'il ne s'agit pas d'une condamnation divine. Et puisque le texte biblique nous délivre au moins deux signes d'espoir et deux signes majeurs. Dans le fil du récit, le premier signe d'espoir est le nom que l'homme donne à la femme. D'accord. C'est lui qui la nomme, et dans la culture du Proche-Orient ancien, c'est une marque de domination. Mais il la nomme Ève, c'est-à-dire la vivante, la mère de tous les vivants. Malgré la poussière, malgré le mensonge, l'horizon, malgré le point de vue centré sur soi, il y a l'aspiration à vivre et à faire passer la vie, comme une possibilité de réparation, de restauration, malgré tout, comme une ouverture que l'humain est quand même capable d'emprunter pour sortir, non pas du monde, mais sortir du repli sur soi provoqué par la convoitise, comme un passage qui ne supprime pas toute peine ni toute sueur, mais qui évite d'ajouter du malheur aux épreuves, d'ajouter de la fatalité aux conditions d'existence, qui évite d'ajouter du désespoir à la condition humaine. Par exemple, nous en lisons et nous en savourons la clarté dans le Cantique des Cantiques, célébration d'un vivant et d'une vivante qui ne se défausse pas sur l'autre, mais qui se cherche et qui se reconnaisse. Et pour cela, et c'est le second signe d'espoir, l'humain n'est pas sans Dieu. L'Éternel Dieu fit à l'homme et à la femme des habits de peau dont il les revêtit. Des habits de peau pour couvrir la nudité et la différence dont la conscience avait provoqué la honte et la peur. Des habits qui ne suppriment pas forcément la honte et la peur, mais qui procurent les conditions pour y réfléchir, pour ne pas se laisser envahir. Et l'Éternel Dieu ne cesse pas, c'est le témoignage des Écritures, de s'allier, de s'engager, de donner grâce pour la libération, parole de bon et de parole pour le bon et la vérité, le Christ pour la vie vivante, le souffle pour l'inspiration. Et ce que nous recevons, nous avons aussi à en cultiver les graines et les fruits. Et les évangiles nous livrent leur témoignage au sujet de Jésus de Nazareth, qui vécut sans convoitise ni mensonge et qui travailla dans le champ de l'humanité. Et avec quel labeur, mais pour quelle œuvre ? Qui travailla en donnant toute son amplitude au verbe cultivé du livre de la Genèse, un verbe qui signifie d'abord servir. Alors c'est un autre labeur qui commence, le travail de mise au monde des humains, le travail de la culture de l'humanité, en évitant les pièges de la convoitise, en développant ce qui, en soi, est par don de grâce, d'amour, de confiance et de pardon, libère des malédictions et de tout ce qui laisse la convoitise dominer en soi. C'est le labeur de vivre en humain, et c'est celui-ci qui est inscrit sur le mur du foyer de l'âme. Dans un de ses premiers livres, intitulé « Jeunesse », Jeunesse est aussi le nom d'une des cloches du foyer de l'âme, vous vous souvenez, la dernière fois, le nom d'une autre cloche était Justice et la troisième s'appelle Vaillance. Bon, dans un de ses premiers livres, donc, intitulé Jeunesse, le pasteur Wagner écrivait « Voyez ce mot « labor » qui signifie à la fois travail et peine. C'est toute une philosophie et toute une morale. Il unit en une même pensée l'activité créatrice de l'homme et cette loi de peiner, de souffrir, à laquelle nous sommes tous soumis. N'indique-t-il pas ce mot que la douleur s'unit au travail dans la longue et lente évolution humaine et que cette évolution est un travail d'enfantement, un douloureux labeur ? Certes, ces mots, ces expressions sont bien ceux et celles d'un autre siècle. Mais qui pourrait soutenir que le labeur de vivre, le labeur de devenir humain a disparu ? Ou qu'il serait aujourd'hui dénué de toute peine et de tout effort ? Le long chemin des Hébreux dans le désert au sortir de l'esclavage d'Égypte n'est-il pas jalonné d'erreurs, d'échecs, de tentatives de retour en arrière, en esclavage ? Le chemin des disciples à la suite de Jésus n'est-il pas marqué d'incompréhension, de tentation, de reniement ? Parce que la libération, la liberté, engage aussi dans un effort, toujours, et d'abord celui de la responsabilité. Parce que, ainsi que l'écrivait le pasteur Bonhoeffer, la grâce coûte. Elle coûte cette bonne place, croyons-nous, au centre du monde que nous souhaitons occuper chacun. Elle coûte les sécurités et les assurances du monde, les idoles familières et les servitudes volontaires qui nous y rattachent. La mise au monde de l'humain, la culture de l'humanité demande, ainsi que Charles Wagner le disait et l'écrivait souvent, de mourir aux vieilles choses, aux choses du vieux monde, pour vivre autrement. Nous ne le faisons pas facilement. Même avec l'aide de l'Éternel, de l'Esprit, du Christ, de la parole, cela demande du labeur, c'est-à-dire peine et persévérance, fatigue et fidélité, sueur et discernement, volonté et discipline. C'est un travail personnel qui, pour le pasteur fondateur du foyer de l'âme, se joint au travail intérieur de la prière selon deux axes principaux: la tâche de l'interprétation des Écritures et des expériences spirituelles et de l'existence, pour y entendre, y comprendre la grande œuvre divine des siècles, une tâche qui permet la mise au monde d'un libre croyant. Et puis, autre axe, l'abandon de l'esprit de parti, qui rend toujours injuste, pour considérer chaque être humain comme un frère, comme une sœur, et cultiver ainsi la fraternité. Et pour ce labeur, nous ne sommes pas seuls. La confiance et la bénédiction de Dieu nous accompagnent. Et nous avons des frères et des sœurs, pas seulement ici ou en église, des frères et des sœurs avec lesquels partager les questions, les quêtes, les encouragements, les consolations. Ce n'est pas un exploit de devenir humain et de vivre en humain, mais c'est un labeur qui n'exclut en aucune manière le bonheur qui se découvre, qui se reçoit chaque fois que la convoitise et ses acolytes destructeurs sont repoussés, ou que coule la source de vie et de bonté qui ouvre l'être humain à plus que lui-même. Et pour conclure, voici encore quelques mots du pasteur Wagner. Une prière nourrie d'une reconnaissance particulière qu'il avait et qu'il exprimait, lui qui avait grandi à la campagne, une reconnaissance pour, disait-il, les paysans qui nourrissent tous les humains. C'est la prière d'un pasteur, mais je crois que chacun peut la faire sienne, la prière de tout laboureur d'humanité. Puissais-je, ô Dieu, être un bon et brave laboureur, croyant en toi, en ton soleil, en l'espérance qui dort dans les sillons. Un laboureur dur à la peine et qui chante sous le vent même et le temps gris. Un laboureur qui aime son champ et se réjouit de ses progrès. Un laboureur soigneux qui veille et prévoit et qui n'a pas l'échine raide quand il s'agit de se baisser vers un épi oublié. Un laboureur qui redresse ce qui est froissé. Un laboureur surtout qui sait attendre et, mieux que cela, recommencer. Amen.